Le journal d'Émilie Moumentaler.
Bonjour, le Théâtre du Jura prépare sa grande entrée sur la scène culturelle. Il a présenté ce matin ses festivités pour l'inauguration qui aura lieu du 7 au 10 octobre à Delémont. L'émotion et l'excitation sont au rendez-vous pour son directeur. Il faut faire des exceptions et délivrer des certificats Covid à des gens non vaccinés. C'est l'avis du conseiller national et médecin de famille jurassien Pierre-Alain Fridé. Le socialiste donne l'exemple de personnes qui ont une maladie ou des allergies qui les empêchent d'être vaccinées contre le coronavirus. Le HCA Jouin en visite chez le champion de Suisse en titre de hockey sur glace. Les Jurassiens se rendent à Zoug ce soir en National League. Ils espèrent enfin voir leurs mercenaires s'illustrer en ce début de saison. Météo, la journée s'annonce bien ensoleillée avec un ciel souvent sans nuages. Les températures seront très agréables, voire assez chaudes, en pleine comme sur les hauteurs. Il fera encore meilleur demain avant que le temps se gâte dimanche. Le grand jour approche pour le Théâtre du Jura. Si une première représentation a déjà été donnée hier dans le cadre de Midi Théâtre, la nouvelle institution culturelle sera officiellement inaugurée du 7 au 10 octobre à Delémont. Toute une série d'animations figure au programme des festivités présentées ce matin, notamment des portes ouvertes. Le directeur du Théâtre du Jura nous fait part de son sentiment alors que les derniers préparatifs vont bon train. Robert Sandeau.
Beaucoup plus ému que je le pensais. J'imaginais pas que ce serait à ce point-là touché par chaque étape, en fait. C'est un peu, voilà, moi je suis à la piscine, on a sauté le plongeoir des 1 mètre avec les midi-théâtres, plongeoir des 3 mètres ce week-end avec un jeune public dans la petite salle, puis après les portes ouvertes aux 5 mètres, et puis le premier spectacle dans la grande en novembre, les 10 mètres. Donc voilà, bah, comme quand on est un mauvais nageur comme moi, puis qu'on doit devoir sauter les 10 mètres.
Et puis au niveau de l'inauguration, donc il y a voilà, les portes ouvertes hein, qui auront lieu le week-end du 9 et 10. Vous avez souhaité vraiment que les gens puissent venir librement, vraiment se promener, s'approprier le théâtre, c'est ça, c'est l'idée de base.
Oui, c'était à la fois le découvrir et puis en même temps se créer les premiers souvenirs, déjà y vivre des choses, quoi. Donc c'est leur théâtre, donc ils peuvent déambuler librement, on est là pour les aider à se repérer, puis les renseigner dans le théâtre, puis en même temps qu'il y ait déjà des animations, qu'ils peuvent déjà faire des choses où ils participent, des ateliers, des trucs comme ça, pour avoir déjà des premiers souvenirs. Et donc, on essaie de s'adresser autant aux enfants qu'aux adultes, qu'aux gens qui ont envie de faire la fête samedi soir, puis de venir danser, puis d'avoir un programme large, participatif et ouvert.
Un des propos recueillis par Alexandre Rosset, notez que le certificat Covid sera obligatoire pour accéder aux portes ouvertes du Théâtre du Jura. Deux expositions sont également prévues dès le 1er octobre, une à la Galerie de la Farbe qui présentera un historique du Théâtre dans le Jura et une autre sur l'esplanade du Forum Saint-Georges qui dévoilera des clichés du photographe Pierre Montavon prises lors de moments clés du chantier. Et tout le programme est à retrouver en lien sur notre site rfj.ch. Le gouvernement jurassien va soumettre un message au Parlement concernant un projet de révision partielle de la Constitution jurassienne. Le but est de permettre aux législateurs d'instaurer un régime de destitution des membres d'autorités cantonales et communales. Cela concerne tant l'exécutif que le législatif ou le judiciaire. Nous y reviendrons plus en détail dans le journal de 18h. Un livre parcourt les années de braise de la lutte pour le Jura. L'ouvrage intitulé « Naissance d'un canton 1962-1978 » est publié aux éditions du Sauvage à Porrentruy. Il regroupe des photographies de Bernard Villemain, dit Bévy, et recense des témoignages d'anciens membres du groupe Bélier comme Bernard Varin. Des retrouvailles entre ex-militants qui n'ont rien perdu de leur saveur pour Bernard Varin.
Il y a une dizaine ou une quinzaine de membres du groupe Bélier ou de jeunes qui se sont trouvés au Genevet. Puis on a discuté de toute notre histoire, on a bien rigolé. On s'est rappelé tous ces bons souvenirs, toutes ces rigolades, tous les pièges qu'on a fait à la police bernoise. Et puis chacun a ajouté une petite phrase qui a donné finalement le fil conducteur de ce livre.
Et l'ouvrage a vu le jour grâce à un financement participatif. Yann Etik est le trésorier de l'association des éditions du Sauvage. C'est lui qui a organisé le crowdfunding. Rassembler les fonds nécessaires n'a pas été un problème, explique Yann Etik.
L'engouement s'est assez vite fait. On avait souci de devoir beaucoup promouvoir, rappeler, faire du bruit autour. Et finalement, peut-être parce que c'était ce projet autour des photos de Bernard Villemain, ce projet en lien avec le canton du Jura, on n'a pas eu peur de crever au poteau. Et puis on n'a pas dû actionner des plans de secours qu'on avait prévus au cas où on ne pouvait pas boucler ce financement. Donc finalement, c'est très bien allé. On a arrivé un petit peu plus que le montant prévu et c'est très bien.
Le livre Naissance de Canton 1962-1978 a été tiré à 3000 exemplaires. Il est disponible en librairie et sur le site des éditions du Sauvage. Le Conseil fédéral va demander 1,6 milliard de francs supplémentaires pour la lutte contre le Covid. Le Parlement devra encore donner son aval, une somme quasi intégralement destinée à financer les tests de dépistage, apprend-on aujourd'hui. L'Office fédéral de la santé publique a de son côté besoin de 46 millions de francs supplémentaires pour faire face à la crise. Le gouvernement a aussi adopté un programme de relance pour le tourisme à hauteur de 17 millions. Et le Covid inflige une triple peine à un nombre restreint de personnes qui ont une maladie ou des allergies qui les empêchent d'être vaccinées contre le virus. Elles ne sont pas correctement protégées et ne peuvent pas obtenir le certificat Covid qui permet d'accéder aux restaurants, aux lieux fermés de loisirs, de culture et de sport. Le Conseil national et médecin de famille jurassien Pierre-Alain Fridé demande au Conseil fédéral de faire de rares exceptions et de délivrer des certificats Covid à des personnes non vaccinées. La France étudie cette question et sera en passe d'attribuer le pass sanitaire à des gens qui aimeraient être vaccinés, mais ne le peuvent pas, Pierre-Alain Fridé.
Oui, il existe des cas rares. C'est des gens qui ont pu faire une...
Et nous reviendrons peut-être un peu plus tard avec le son de Pierre-Alain Fridé. En attendant, un nouveau-né d'un mois a été vacciné par erreur contre le Covid-19 en Turquie, mais il se porte bien depuis. L'affaire a été révélée hier. Il s'agit du premier cas connu de vaccination d'un nourrisson dans le monde. L'enfant a reçu un vaccin contre le coronavirus en juillet, au lieu de recevoir un vaccin contre l'hépatite, a indiqué le médecin qui continue à suivre l'enfant. Et nous allons retrouver Pierre-Alain Fridé qui demande au Conseil fédéral de faire de rares exceptions et de délivrer des certificats Covid à certaines personnes non vaccinées.
Oui, il existe des cas rares. C'est des gens qui ont pu faire une réaction très forte à une première dose qui aurait pu provoquer un état inflammatoire ou une contre-indication décidée par les médecins. Puis ensuite, il y a des gens qui ont un problème de santé particulier, notamment de graves problèmes allergiques qui nécessitent en permanence d'avoir de l'adrénaline sur eux. Ces gens n'ont pas la possibilité d'obtenir un pass sanitaire. Et ça veut dire que leur vie a déjà été un peu améliorée dans le sens où les tests PCR pour ces gens-là est gratuit. Mais en fait, ils n'auront jamais de passe sanitaire. Donc, quel est le problème pour eux? Chaque fois faire des tests, gratuits c'est vrai, mais une difficulté à vivre au long cours. Alors, il y a des gens qui font ce choix, qui ne veulent pas se faire vacciner. Eux aimeraient se faire vacciner, mais ne le peuvent pas.
Le Conseil fédéral qui siège aujourd'hui devrait débattre de l'abandon de la gratuité des tests. Peut-être décidera-t-il de retarder l'entrée en vigueur des tests payants. On en saura davantage dans l'après-midi. Et dans l'actualité étrangère, Derek Chauvin conteste sa condamnation. L'ancien policier américain a fait appel de la peine de 22 ans et demi de prison prononcée contre lui pour le meurtre de l'afro-américain George Floyd l'an dernier. L'affaire avait suscité une vague d'indignation aux États-Unis et dans le monde. Derek Chauvin attaque 14 points de sa condamnation prononcée le 25 juin par la justice du Minnesota. Il se plaint notamment du fait que le juge n'a pas ordonné la mise à l'isolement des jurés pendant la durée du procès aux États-Unis. Un album qui a révolutionné l'histoire du rock, Nevermind, est sorti il y a pile 30 ans, le 24 septembre 1991. L'album du groupe américain Nirvana, emmené par son chanteur-guitariste Kurt Cobain, a tout renversé sur son passage et a marqué l'émergence du grunge. Nevermind a même détrôné l'album Dangerous de Michael Jackson au Billboard, le classement américain des meilleures ventes. Le deuxième disque de Nirvana a été vendu à plus de 30 millions d'exemplaires à ce jour. Nevermind reste l'album référence du rock alternatif. François Comte nous emmène dans les eaux bleues de ce disque de légende.
Une déferlante, un ouragan, un tsunami, les mots manquent pour expliquer le bouleversement créé par Nevermind. Le rock de l'époque était principalement dominé par les groupes comme AC/DC ou encore Iron Maiden. Toutes ces formations vont d'un coup se retrouver ringardisées par un ovni musical venu de Seattle, Nirvana. Nevermind s'ouvre sur le premier single, Smells Like Teen Spirit.
Yeah!
de Nirvana s'inspire notamment du punk rock, comme l'illustre la chanson Territorial Pissings. Le groupe se réduit à sa plus simple expression, une guitare, une basse, une batterie et un chanteur. Nirvana marque le retour à un son brut de décoffrage, sale, diront certains, à coups de guitare saturée comme dans le solo du titre In Bloom. Le mouvement grunge, qui veut d'ailleurs dire sale, porté par Nirvana, n'est pas seulement musical, il se matérialise aussi dans un style vestimentaire minimaliste, à la croisée entre la mode hippie et le punk rock. Le grunge devient l'étendard de la génération X, marquée par le déclin social face au mondialisme triomphant. Nirvana propose également des titres moins agressifs et plus mélodiques. Le groupe de Seattle s'essaye même à la balade avec la chanson Polly. Have a seat, let me clip dirty wings, let me take a ride, cut yourself, want some help, please myself. Nevermind s'achève sur un titre sépulcral, Something in the Way, qui résonne comme une préfiguration du drame qui s'annonce déjà. Something in the way. Rattrapé par son succès, par ses excès et par ses démons, Kurt Cobain met fin à ses jours 2 ans et demi plus tard, le 5 avril 1994 à 27 ans. Il rejoint ainsi le funeste club des 27 aux côtés de Brian Jones, Janis Joplin, Jimi Hendrix et Jim Morrison.
RFJ, il est 12h28.
Sport. David contre Goliath, le néo-promu contre le champion de National League. C'est l'affiche qui attend le HC Ajoie ce soir. Les hockeyeurs jurassiens se déplacent à Zoug à 19h45. Un adversaire qui, après son titre de l'an dernier, continue de surfer sur une vague positive. Zoug occupe actuellement la 2e place du classement. Le début de saison est plus compliqué pour le HCA qui est lanterne rouge. Le fait que sa légion étrangère n'a pas encore inscrit le moindre but est une des explications. Mais pas d'inquiétude pour l'heure pour l'entraîneur Ajulo Garishian.
C'est une adaptation à la Ligue. Je pense que c'est aussi des joueurs qui ont peut-être un petit peu moins de temps puis d'espace qu'ils avaient peut-être en Swiss League. Et puis, il faut qu'ils s'adaptent un peu. Mais je pense que les opportunités de marquer ont été là dans plusieurs matchs. Juste qu'il n'y a pas de réussite. Il faut quand même dire qu'on a joué maintenant... quelques matchs sans Asselin, quelques matchs sans Leduc aussi. Fait que ça change quand même un peu la profondeur de l'équipe. Et puis, ça se ressent peut-être aussi sur les performances. La pression augmente sur les deux autres. Et bon, là, ce soir, on a la chance d'avoir mis la main sur François Beauchemin qui va donner à notre équipe sûrement de l'énergie puis de la profondeur. Mais c'est clair que ces joueurs sont ciblés parce qu'ils ne marquent pas. Mais je pense que dans certains matchs, peut-être Berne n'est pas un exemple, mais dans d'autres matchs, on a eu des occasions de marquer qui étaient là. Même contre Berne, il y en a eu, mais... peut-être pas autant que contre Ambry ou contre les autres équipes, Bienne ou autres, mais je pense que c'est une question de temps, une question d'adaptation. Ça va venir.
Zoug HC Ajoie, c'est une rencontre à suivre en direct sur RFJ ce soir dès 19h30. Et le HC de Léman-Vallée reprend les choses sérieuses. Les hockeyeurs vadais disputent leur premier match de la saison de Premier League ce soir dans la capitale jurassienne. Ils reçoivent Yverdon à 20h30. Merci pour votre écoute et bon week-end.